Audiolib présente Comme un chant d'espérance de Jean d'Ormesson de l'Académie française, lu par Daniel Nicodème. Dans ton néant, j'espère trouver le tout. Goethe, Faust. Contenant la promesse du tout, le rien désigne le non-être. Le non-être n'étant autre que ce par quoi l'être advient. François Cheng, 5 méditations sur la mort. Prologue. L'idée, chère à Flaubert, d'un roman sur rien, m'a longtemps travaillé en silence. Elle m'est revenue en mémoire par un détour bizarre. Pour préparer deux de mes livres récents, c'est une chose étrange à la fin que le monde, et un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, je me suis intéressé, en néophyte, à un domaine qui m'était étranger et qui a fait depuis 100 ans des progrès fascinants, la physique mathématique et la cosmologie. Parvenant comme par miracle, en suivant des chemins divers, à des conclusions identiques, qu'est-ce que les mathématiciens et les astronomes ont découvert de notre vivant, les uns en théorie et par le calcul, les autres par l'expérience et par l'observation. Pour dire les choses en un mot, que l'univers a une histoire. C'était un coup de tonnerre dans le ciel de la science. Longtemps, de grands esprits, Aristote en tête, ont pensé que le monde était immobile et éternel. Les Grecs, qui ont presque tout inventé il y a 2500 ans sur les côtes de l'Ionie, c'est-à-dire de la Turquie d'aujourd'hui, la géométrie, la mathématique, la philosophie, le théâtre, l'éloquence, la démocratie, n'avaient pas manqué de remarquer, se référant tout naturellement aux deux astres les plus brillants au firmament du jour et de la nuit, que tout ne cessait jamais de changer sous le soleil et dans ce qu'ils appelaient notre monde sublunaire. Une formule d'Héraclite, née à Éphèse, est restée célèbre. Pantarei, tout passe. Mais derrière les changements qui se succédaient dans son sein, le monde lui-même ne bougeait pas. Il était là. C'est tout ce qu'on pouvait en dire. Rival d'Héraclite, Parménide soutenait à Élée, en Grande-Grèce, autrement dit en Italie du Sud, que l'être est et que le non-être n'est pas. Le non-être ne devait même pas être évoqué. Il était impossible d'en parler. Pour Socrate, pour Platon, pour Aristote, successeurs de Parménide et d'Héraclite, l'homme était la mesure de toute chose, et la terre sur laquelle il régnait était immobile et éternelle au centre de l'univers. Immobile comme elle, et éternelle comme elle. Un certain nombre de populations qui ont longtemps passé pour primitives au regard de la culture grecque avaient une autre vision de l'univers qui les entourait. Le monde, pour elles, était sorti du néant après des aventures qui prenaient en Mésopotamie, en Égypte, aux Indes, en Chine, en Afrique, en Amérique précolombienne, dans les pays scandinaves, et d'ailleurs en Grèce même pour l'homme de la rue, les formes les plus diverses. D'innombrables mythes pleins d'animaux fabuleux, de tortues géantes, de chevaux à 8 jambes, de serpents à plumes, de fleurs de lotus, d'arbres enchantés, de fontaines magiques, de potiers divins, de généalogies compliquées, de déesses et de dieux qui s'engendraient les uns les autres et de nourrissons nés par miracle, prétendaient rendre compte du commencement de ces choses qui prenaient la place de leur absence et que nous appelons le monde. Un peuple, en particulier, s'était construit autour d'un livre sacré qui devait jouer un rôle considérable dans la brève histoire des hommes. C'était un petit peuple venu de Mésopotamie sous la conduite d'Abraham et installé en Méditerranée orientale, les Hébreux. Le texte qui ouvrait leur Torah, la future Bible des chrétiens, s'appelait la Genèse. Elle racontait la création en 6 jours, par un Dieu caché qu'il était interdit de représenter et auquel il était à peine permis de donner un nom, d'un monde qui n'était pas éternel. Dans la crainte et le tremblement,